c'est Info Club Sandwich.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 15 juin 2026. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidien d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens. Disponible sur le 87.7 FM en DAB+ et en réécoute sur radiocampusamiens.fr. Comme musique du jour, on vous propose La Nièce de Lila Essoud et Bam Bam de Sister Nancy. Pour l'interview du jour, Aline reçoit le directeur de la Maison de la Culture Romanique Durier et Thomas Germy, responsable de la communication, pour parler de la programmation et perspectives de la Maison de la Culture. Et pour la dernière partie de l'émission, je vous propose l'agenda culturel et nous terminerons sur votre chronique quotidien préférée de Colline sur la 30e édition des rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens se tenant à la Hall Free Ciné du 6 au 21 juin. D'abord, on va commencer par l'interview. Aline, je te laisse la parole.
Merci beaucoup Lina. Alors comme tu l'as dit, évidemment, je reçois Romaric Dorier, le nouveau ou pas, maintenant ça fait quand même quelques mois, directeur de la Maison de la Culture. Bonjour.
Bonjour.
Et Thomas Germier.
Salut.
Que tu es habitué aux ondes de Radio Campus Amiens, tu es responsable communication.
Ouais.
On va commencer par une question très très simple. C'est quoi l'ambition principale pour la saison prochaine ?
Ah, je pense que l'idée, c'est d'ouvrir la maison, les portes, les fenêtres, et puis rencontrer les habitants avec un nouveau projet. Je pense qu'on traverse une phase du monde où les choses s'accélèrent, où ça devient de plus en plus chaotique, et il n'y a plus tant d'endroits dans une ville où on peut se retrouver ensemble pour... discuter, regarder une œuvre d'art, regarder un spectacle voilà, peut-être il reste certains bars sympas et puis la Maison de la Culture. Donc on aimerait bien que ce soit cet esprit-là d'ouvrir comme on est, venir comme on est et d'accueillir tout le monde.
Et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place justement pour la saison prochaine pour ouvrir au public, aux associations, aux habitants et aux habitantes d'Amiens?
Ben déjà, ça a été un travail qu'on a fait avec toute l'équipe pour renforcer la convivialité. Donc la Maison de la Culture sera ouverte du mardi au samedi de midi à 23h.
On continue
avec le bar côté jardin, avec une super équipe très accueillante, un nouvel espace pour les enfants, pour accueillir les familles aussi, un espace lecture qui sera présent. Et puis aussi, on va ouvrir aux associations avec un projet qui s'appelle Loin, c'est l'anagramme de Laboratoire ouvert d'intelligence naturelle. C'est l'idée que toute association, toute personne qui souhaite proposer une pratique culturelle, ça peut être donner des cours d'anglais, un cours de yoga, un cours de tai chi le matin, faire des rencontres littéraires entre des gens qui écrivent. Ils sont déjà là, ils sont déjà à côté jardin, mais on a décidé de leur donner plus de place et de leur confier l'intégralité du hall de la Maison de la Culture. Avec ça, les expositions, le cinéma qui sont déjà présentes à la Maison de la Culture, on espère ouvrir en grand les portes pour que ça devienne vraiment un lieu de vie.
Un lieu de vie et donc aussi un lieu de culture. Vous avez conçu les paysages comme des parcours. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ces paysages? Pourquoi ce mot revient beaucoup dans votre édito? Et c'est quoi un peu les paysages de la saison prochaine?
L'idée, c'était que on voulait pas faire une simple programmation de spectacle où les gens viennent, repartent. Et voilà, ça participe de cette convivialité aussi, c'est de se dire qu'il y a un avant, un après spectacle, et on a essayé de construire la saison comme des paysages. C'est simplement des endroits dans lesquels on va vous prendre par la main et on va se balader ensemble pour découvrir quelque chose de plus vaste que ce qu'on attendait. Donc on a fait des paysages sur des destinations, la programmation elle sera très internationale. Par exemple, on aura un paysage Australie où on va présenter une magnifique compagnie de danse avec un spectacle génial qui s'appelle Manifesto, 9 batteries sur scène, 9 danseurs, et c'est formidable. Et puis, on voulait proposer de cette occasion-là dans un paysage australien pour faire une semaine consacrée au cinéma australien, faire des rencontres aussi. Par exemple, on aura un paysage Taïwan où on aura un spectacle de danse taïwanais magnifique encore sur le grand plateau du cinéma taïwanais, et puis après des ateliers de pratique de danse et pourquoi pas des découvertes culinaires en même temps. Donc c'est cette idée-là d'avoir une programmation qui soit plus éditorialisée. On vous prend par la main pour essayer d'approfondir la relation à, je dirais, d'autres cultures, d'autres formes de culture.
Avant de revenir à cette programmation, le projet, il insiste aussi sur le croisement entre artistes et chercheurs. Comment ces collaborations s'expriment-elles aussi dans la programmation et dans les temps forts ?
Là, c'est en lien aussi avec les spectacles. On trouvait ça intéressant d'inviter, de renforcer un peu la scène intellectuelle à Amiens en invitant des chercheurs, des penseurs, des auteurs, et de les faire dialoguer avec des artistes. Donc on partira de quelque chose de sensible qui va être la découverte d'un spectacle, et puis la discussion avec des penseurs qui vont venir discuter avec les artistes pour essayer d'avoir cette espèce d'échange fécond. Et ça permet aussi d'élargir en disant qu'on n'est pas seulement dans la création artistique, mais on est aussi dans le débat de société. On aura par exemple une rencontre en fin de saison avec un professeur spécialisé en éthique pour la fin de vie, parler de la question de la fin de vie en regard d'un spectacle qu'on présente sur cette même thématique. À Noël, on a une version de 20 milieux sous les mers et on invite Étienne Klein qui adore la radio d'ailleurs, qui anime la conversation scientifique sur France Culture et qui viendra dialoguer avec un artiste. Donc voilà, c'est ces liens-là qu'on aime beaucoup et avoir des rencontres vraiment de très grande qualité.
Vous associez aussi 10 artistes sur 5 ans, 6 dès la saison 26-27. C'est quoi le rôle de ces artistes sur le territoire ? Qu'est-ce qu'ils vont y faire ?
Oui, 5 ans, c'était l'idée de pouvoir se donner du temps et puis d'avoir une programmation un peu catalogue ou zapping, mais plutôt d'approfondir une relation avec des artistes. Déjà, la Maison de la Culture va devenir leur maison de création. C'est là où ils vont venir avec leurs équipes répéter, passer plusieurs semaines avant de faire leur première, créer ici à Amiens, avant de partir parfois à Paris, parfois à Avignon, parfois à l'étranger. Donc voilà, c'était pour renforcer le rôle de maison de création de la Maison de la Culture. Et puis avec le temps qu'ils vont passer ici, c'est l'idée aussi qu'ils puissent aller rencontrer les associations, les lycéens, faire des ateliers, faire des rencontres et être là pendant un temps long pour créer cette rencontre humaine entre les artistes et les habitants. Ça se fait avec du temps.
Oui. Et comment vous les avez choisis, ces artistes-là ? Comment ça se passe ?
Alors là, pas du tout de manière démocratique, malheureusement. Non, pour la plupart, c'était... Déjà, il y a 9 équipes artistiques qui sont originaires des Hauts-de-France. Parce que ça faisait 17 ans que j'étais à Valenciennes, dans la région aussi. Et on a implanté toute une génération d'artistes qui ont... à mon avis, révolutionner, ce soit le théâtre, la danse. On a la chance d'avoir un territoire où il y a des artistes qui sont extrêmement aventureux et puis qui rayonnent après un peu partout. La preuve, là, on aura 5 créations dans le Festival d'Avignon, dans le Festival Line. Donc, vraiment, il y a une sorte de génération d'artistes des Hauts-de-France et puis à Amiens qu'on souhaite implanter durablement. Je pense que c'est assez varié. Il y a du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique aussi.
Pour représenter tous les arts,
oui. Mmh.
Vous l'avez dit, on a commencé un petit peu à parler de programmation. Vous lancez surtout 3 nouveaux temps forts, Flower Power, Bamboche et Un Focus International qu'on a un petit peu évoqué. C'est quoi les objectifs de lancer ces 3 temps forts-là ?
Je pense que ça fait partie aussi de cette question de la convivialité. C'était avoir 3 mini-festivals qui permettent de mieux faire la fête, de se retrouver et d'avoir ces moments qui rythment aussi la saison. Flower Power, c'était vraiment dans l'idée de retrouvailles avec les années 70 sur la question de l'engagement écologique, sur la jeunesse, sur la résistance à une certaine forme de fatalisme et de faire la fête, de recréer du commun. Donc voilà, c'est un festival à la fois sur la question du vivant et des réconciliations dans un monde qui est hyper polarisé, hyper chahuté par les extrêmes. Donc voilà, on va commencer par ces espèces de journées Flower Power, de déclaration à l'amour, amour des plantes, amour des autres, voilà, amour de la vie peut-être. Et là, on espère que ce sera un beau rendez-vous pour les étudiants. Il y aura une fête de rentrée et plein de rendez-vous géniaux.
C'est un peu en ouverture de saison. En plus, c'est tout de suite, dès les débuts, en tout cas, en septembre, ça va vite arriver, finalement. Il y a aussi Bamboche, le festival jeunesse. C'est quoi, pourquoi avoir fait ce focus jeunesse? Et est-ce que vous pouvez, par exemple, me présenter un spectacle ou deux qui vous a particulièrement...
Oui, bien sûr. Je vais peut-être laisser parler un peu Thomas aussi.
Bien sûr.
Oui, Bamboche, effectivement, c'est le temps fort consacré au temps en famille, on va dire. Qui évidemment présente presque 10 spectacles, 10 propositions pour les plus petits, accompagnés des plus grands aussi, parce que ce sont des spectacles qui marchent en fait pour tout le monde. Et en fait, c'est vraiment à l'image de ce qu'on a souhaité faire tout au long de l'année. Sur l'ensemble de la saison, il y a presque 30 spectacles en fait qu'on peut voir véritablement en famille. Non pas que ce soit des spectacles qui soient spécifiquement destinés aux enfants, c'est juste que voilà, on peut passer un bon temps avec les enfants devant aussi des concerts qui n'étaient pas destinés aux plus petits, par exemple Philippe Catherine ou Jean-François Zigel, par exemple. Voilà, et effectivement, ce temps fort qui est tout nouveau va commencer à partir du mois de décembre. Et peut-être qu'en tête d'affiche, on peut citer Cendrillon de David Lescaut. Alors, c'est un prénom, c'est un nom qui peut parler ici. Qui va revenir de manière un peu truculente aussi sur le conte que tout le monde connaît. On s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire à partir de la naissance jusqu'aux grands-parents.
Jusqu'aux grands-parents.
Ouais.
Et si vous aviez sur toute la saison, si vous aviez un spectacle ou un rendez-vous à recommander absolument chacun, est-ce que vous avez déjà une petite idée de votre spectacle à mettre en avant?
Alors là, c'est très difficile à dire. Forcément, on pense à beaucoup de choses. On peut penser au concert de Fatoumata Diawara aussi, qui a une superbe actu. On peut penser à une pièce de théâtre qui s'appelle 20 000 lieues sous les mers, ou Bigre encore. Ça, c'est que des grands noms, vraiment. Allez voir quelques images sur notre site où il y a toute notre programmation. Vraiment, je pense que ça va vous parler. Un coup de cœur tout à fait personnel. Moi, je pense que j'irai piocher dans peut-être les 4 artistes qui sont présents cette année au Festival d'Avignon. Peut-être que je piocherai Boris Charmatz, qui est un artiste qu'on adore à la Maison de la Culture aussi, à Amiens, parce qu'on a l'habitude de le recevoir. Il a une proposition assez singulière à Avignon, que je suis vraiment, à titre personnel, tout à fait curieux et impatient de découvrir à Amiens.
Mmh. Romaric, peut-être un spectacle ou deux à regarder?
Ouais. Moi, je pense qu'il y en a un parce que ça a été aussi une histoire personnelle avec lui. C'est la venue à Amiens de Julien Gosselin. Je l'ai accompagné depuis 2013. Il avait 24 ans. Il faisait son premier spectacle. Ça a été une aventure incroyable. Maintenant, il est devenu directeur de l'Odéon. Et il va créer pour la cour d'honneur du Festival d'Avignon à partir du 4 juillet. Et on aura la chance, ce sera la seule date hors Paris. Il viendra jouer ici la création qu'il fait pour la cour d'honneur du Festival d'Avignon qui s'appelle Mal d'Aurore. Et c'est une espèce de grande fresque qui va durer 5 heures sur... D'après l'écriture de Lautréamont, qui a influencé plein d'auteurs, jusqu'à Mercredi Adams récemment. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'une genèse. Il travaille sur la question du mal, de la représentation du mal. L'écriture de Julien Gosselin, C'est un très bon spectacle pour ceux qui détestent le théâtre, par exemple. C'est-à-dire que ce qu'on ressent en voyant une pièce de Julien Gosselin, c'est comme si on allait... samedi soir, j'étais au festival Midi avant la nuit, mais c'est exactement ça. C'est cette énergie, comme si on assistait à un gigantesque concert de rock avec la même énergie, la même implication physique des comédiens. Il y a de la vidéo, il y a de la musique live. Voilà, ça va durer 5 heures, mais c'est une expérience dont on se remet jamais.
Après, si on a envie de rire un bon coup aussi, parce qu'on a le droit, c'est franchement, je recommande les spectacles de Camille Chamou et Vincent Dedienne aussi, quand même, qu'on accueille à la Maison de la Culture.
La billetterie est d'ailleurs ouverte. Comment on fait pour si l'un ou l'une de nos auditeurs ont envie de voir le programme, mais aussi d'acheter les places en avance, comment ça se passe ?
Il y a plusieurs manières de réserver les places. Alors d'abord, la billetterie est ouverte, effectivement, mais uniquement aux personnes qui souhaitent souscrire à la carte MCA. Voilà, si vous avez envie de réserver des places sans souscrire à la carte, il faudra attendre le 2 septembre. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie des avantages de la carte MCA d'avoir une certaine forme d'avant-première sur l'ouverture de la billetterie. Soit vous pouvez venir directement à l'accueil de la Maison de la Culture, soit réserver les billets directement sur notre billetterie en ligne, directement accessible sur notre site. Voilà.
Puis on a les tarifs spéciaux avec le passeport vie étudiant, c'est ça ?
Oui, en fait, on a augmenté le tarif moins de 12 au tarif moins de 30. Donc voilà, c'est beaucoup plus avantageux, beaucoup plus accessible aussi.
Dans le cadre de cette accessibilité que vous voulez mettre en avant.
Ouais, aussi. C'est ça. En fait, pour les étudiants, le premier tarif est à 5 euros. Voilà. Puis ensuite, ça dépend des spectacles. Ça peut monter, mais qu'un tout petit peu. Voilà.
Mm-hmm. Là, vous pouvez venir voir le concert de Camille ou de Philippe Catherine pour 15 euros, par exemple.
On va d'ailleurs s'écouter un petit extrait, en tout cas, de Philippe Catherine, de la chanson « Louxor, j'adore ».
J'adore. Regardez danser les gens. Tourne souvent au bar du Louxor. Regardez danser les gens. J'adore, 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 j'adore. Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs, j'adore. Regardez danser les gens. Et de temps en temps, je coupe le son. Et je remets le son. Je remets le son. Et je recoupe le son.
C'est si dur de couper cette musique, c'était qu'un extrait.
Ouais, en fait, sur Philippe Catherine, il y a peut-être une précision à apporter, c'est qu'il va jouer avec l'Orchestre de Picardie.
Tout à fait. Donc ça sera un peu un format différent de ce qu'on peut entendre.
Ouais, absolument, mais avec la même générosité et avec la même originalité qui fait la signature de Philippe Catherine.
Bien sûr. En tout cas, vous pouvez retrouver tout le programme de la saison 2026-2027 sur le site de la Maison de la Culture d'Amiens. Il y a un programme tout beau. Vous pouvez venir aussi dans les locaux de Radio Campus Amiens. On a des programmes pour vous. Nous, on suivra cette saison avec attention, comme l'année dernière. On vous fera des chroniques de spectacles. Et pour finir cette interview, j'ai une petite question sur une œuvre. Vous allez installer l'œuvre d'Hicham Berada sur la façade. Pourquoi ? Et c'est quoi le message derrière ça ?
Moi, j'adore quand quand l'art réenchante le réel. Et c'est vrai que la position du bâtiment de la Maison de la Culture, on est en plein centre-ville, on est au bout de la rue principale. Et il y a eu cette tradition depuis l'ouverture de la Maison de la Culture d'Amiens en 66 d'installer devant soit des sculptures, soit de faire des commandes à des artistes. Et je trouvais ça bien de renouer avec ça, c'est-à-dire qu'on soit pas simplement dans la communication, mais dans un vrai geste artistique. Et Hicham Berada, bah déjà, c'est un artiste originaire de la région. Il a fait le Frénois. Studio National des Arts Contemporains, et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le rapport entre la culture et la nature, sur la chimie, sur le vivant, sur la représentation, et donc on aura un espèce de gigantesque paysage, on ne sait pas si ce sera de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit, mais quelque chose d'assez magique, de jour comme de nuit, et ça va être une sorte de signature pour la saison prochaine, et de l'intérieur ça va être très beau aussi, comme on va ouvrir de midi à 23h, quand on sera à l'intérieur du bâtiment. Je pense qu'on sera dans un endroit un peu refuge, étrange, qui sera vraiment, vraiment hyper original.
Mmh. On a parlé de la saison, on a annoncé tous les spectacles, etc. Comment on sait qu'une saison est réussie? C'est quoi les signaux que vous allez un peu repérer pour savoir si votre saison sera réussie?
Oui, alors bien sûr, il y a les chiffres de fréquentation. Là, la saison des 60 ans, elle a été formidable. Il y a eu plus de 43 000 spectateurs avec beaucoup de retours très, très positifs. Moi, je dirais peut-être le pari, c'est de déjà être à la hauteur pour avoir du monde. Mais je crois qu'on a un enjeu de diversité, de rajeunissement des publics. Donc, on va beaucoup travailler sur la question de l'accessibilité, de l'accès aux familles, de la diversité du public aussi, parce qu'il faut, je pense, préparer les publics de demain. Et puis, je pense que il y a une idée reçue aujourd'hui, les publics les plus jeunes ou même le public des actifs sont pas seulement scotchés sur Netflix ou derrière leur téléphone, mais qu'on doit être dans un lieu vivant où peut-être c'est pas que du spectacle, on prenne son billet, on rentre, on sort, mais aussi on peut aller boire un coup, écouter de la musique, il y aura des soirées DJ aussi, certains soirs de représentation, enfin c'est vraiment l'idée de lieu de vie et de valeur d'usage qui sera importante.
Eh bien, merci à vous deux d'être venus sur les ondes de Radio Campus Amiens.
Merci.
Merci à vous.
Temps de partir sans avoir personne où aller. Je sais pas quoi construire, mais pas d'envie, c'est pas de regret. Voilà le temps de vomir sur cet amas de gueules en biais à qui je sais plus quoi sourire, à qui je sais plus quoi causer. On en a bien parlé de l'époque et de ces enfants qui savent plus aimer. Mais comme faut bien vider les stocks, la logistique fait des bébés. La niaise voudrait pas virer conne, ça tient un peu de subtilité. Il paraît qu'à trop croire en l'homme, y'en a quelques-unes qui se font baiser. Prends tes carnets puis deviens tout ce que t'as jamais supporté. Écris l'angoisse et le chagrin. Personne ne meurt sans se vider. On s'est dit, faut partir de rien et puis se faire tout seul avec du vide plein les mains. Tu l'imagines, ma petite gueule, le sourire paumé en chemin. Parce que ça plaît plus à personne quand la gosse se change en chien et que le chien grogne. On en a bien parlé de la foi, celle qu'on met là où on peut. Mais quand y'a de la place pour une croix, y'a des chances que ça sonne creux. Thank you. détresse, ta guitare, ton amour, c'est ta musique. Moi je vous dis que c'est mon désespoir, une vieille fille alcoolique qui demande à me voir tous les soirs, à m'inspecter les tripes. Elle prend ce qu'elle veut et elle se marre à le traîner en public. Ça devait être de ces chansons où le bout d'espoir se pointe à la fin, qui vous laisse pas sauter du pont sans un ennemi.
C'était la niaisie de Lila Issoud, toujours sur le 87.7 FM. Maintenant, je vous propose un tour d'horizon d'actualité culturelle. Vu qu'il fait beau cette semaine, une visite guidée vous sera proposée sous forme d'une balade à Pernois, ce jeudi 18 juin à 18h au parking de Stade de Foot. Pour plus d'informations et inscriptions, contactez la maison de tourisme Nièvre et Somme sur le numéro 03 22 51 46 85. Pour toutes les amateurs des machines et des trucs industriels qui sont en lien avec l'hydraulique, une visite guidée de 45 minutes au château d'eau vous a été proposée ce samedi 20 juin et une autre le 19 juillet avec un tarif exceptionnel de 3 euros. Pour réserver votre place, contactez le numéro 03 22 22 58 90. Ce samedi 20 juin, on a aussi la dernière séance de l'atelier de bien-être « L'œil et la main » au musée de Picardie sur la thématique de la composition par la couleur. Peindre les contrastes, l'atelier est accessible dès 6 ans, 16 ans, avec un tarif adulte de 9 euros et un tarif adulte réduit de 5 euros. Réservation obligatoire sur le site amiens-tourisme.com. Une visite historique de Beffroi, d'une 1h30 vous sera proposée ce dimanche 21 juin avec un tarif adulte de 5 euros et un tarif adulte réduit de 4 euros. Pour réserver votre place, rendez-vous sur le site www.amiens-tourisme.com, visite guidée, rubrique visite thématique et atelier jeune public. Maintenant, on va continuer avec votre chronique préférée du moment sur les aventures de Colline au rendez-vous de la bande dessinée.
Alors, je suis avec Marc Dubuisson, bonjour.
Bonjour.
Alors donc, tu es scénariste, auteur, dessinateur. Tu as notamment co-réalisé l'album Anna et l'Entremonde, enfin les quatre tomes de Anna et l'Entremonde avec Si. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu d'Anna et l'Entremonde, de ce que c'est et de comment est-ce que toi tu as abordé ce projet ?
Bah, Anna et l'Entremonde, en fait, ça raconte l'histoire d'une petite fille orpheline qui vit dans les îles Canaries en 1492. Une année qui n'est pas prise au hasard parce que en fait elle se retrouve coincée dans les caravelles, les bateaux de Christophe Colomb pour son expédition vers les Indes en faisant le tour de la Terre par l'autre côté. Et dans cette version de l'histoire, la Terre n'est pas ronde mais plate et Anna et son meilleur ami se retrouvent projetés dans un monde fantastique qui s'appelle l'Entremonde. Et ils se perdent de vue et Anna va essayer de retrouver son meilleur ami.
Alors, on te connaît pour tes textes drôles, enfin tes bandes dessinées, beaucoup sur l'humour. Comment est-ce que là, tu as réussi à avoir ton style dans Anna et l'Entremonde alors que c'est quand même une fiction, c'est un récit fiction avec les pirates
Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, la première version du scénario, je l'ai écrite avant de faire du dessin de presse, par exemple. Donc c'est une histoire que j'avais en tête depuis très longtemps et je prends ça différemment de dessin, de strip, c'est très différent, mais ça fait aussi partie de moi. C'est des histoires que moi j'aime bien lire en tant que lecteur et j'avais envie justement de raconter ce type de récit et un truc jeunesse mais aussi qui puisse être lu par des publics plus âgés. avec des références qui peuvent parler un peu à tout le monde. Et j'avais vraiment envie d'une grande épopée, un grand récit d'aventure, mais toujours en mettant de l'humour, parce que je ne sais pas écrire autrement. J'ai toujours besoin de mettre une dose d'humour. Et c'est vrai que là, je suis passé de petite BD en 4 cases à une saga en 4 tomes, quoi. Donc ça change pas mal la donne.
Et qu'est-ce que ça te fait de savoir que certains professeurs l'utilisent dans leurs cours, Anna et l'Entremonde ?
Ça fait hyper plaisir en fait. Et c'est vrai que quand on fait une BD, on a envie qu'elle se fasse appropriée par les professeurs, par les lecteurs, les lectrices. Et le fait d'en parler en cours aussi, ça veut dire qu'il y a peut-être des sujets intéressants qui sont traités dans la BD, il y a peut-être une façon de raconter l'histoire qui est intéressante. Et du coup, c'est une forme de reconnaissance pour nous. Donc c'est hyper, hyper agréable de savoir que cette BD est aussi vue dans les écoles.
Alors là, tu viens aussi présenter Amour, Fascisme et CDD. C'est un autre tome. Alors, tu avais fait un autre...
En fait, le premier tome, c'était Amour, Djihad et RTT. Et c'est un album que j'ai sorti en 2018. Donc, c'était un peu après toutes les histoires de terrorisme qu'on a vécues en Europe, en Belgique et en France notamment. Et en fait, ce qui m'avait fasciné à l'époque, c'était de voir comment, malgré le fait qu'on pouvait sortir de chez soi et se retrouver dans un endroit où une bombe allait exploser, on continuait quand même de sortir et d'aller au travail tous les jours pour faire des trucs parfois qui n'avaient aucun sens. Et après avoir sorti ce premier album, j'avais envie encore de raconter d'autres choses. Mais j'avais pas encore trouvé vraiment le fil conducteur, donc j'ai mis le temps pour laisser mûrir. Et en fait, ces dernières années, il y a eu toute cette recrudescence du montée du fascisme, il y a eu le masculinisme, il y a eu l'arrivée de l'IA dans nos vies, et j'ai trouvé que tout ça en fait pouvait être facilement lié et raconter vraiment une nouvelle histoire un peu dans ce genre-là, toujours sur le ton de l'humour, mais un peu acerbe et qui est une forme de satire de la société actuelle. Et finalement, je suis content d'avoir attendu ces 7-8 années pour le faire, parce que y avait vraiment de la matière, quoi.
Et comment est-ce que tu en es venu, toi, au dessin de presse ?
Je suis un amateur de dessin de presse, c'est-à-dire que je lis la presse depuis très longtemps, et c'est vrai que c'est un exercice que je trouve hyper intéressant. Ce qui finissait par m'embêter un petit peu dans le dessin de presse, c'est que c'était souvent le même type de dessin, c'est-à-dire une vignette avec une petite blague. Et moi, j'avais envie, je trouvais que ça ne permettait pas d'aller dans la nuance. Et du coup, j'ai eu envie de proposer quelque chose d'un peu différent en faisant des strips où, en 4 cases, on pouvait raconter un peu plus de choses, mettre un peu plus de nuances. Et ne pas forcément coller à l'actualité pure, mais faire un dessin qui parle d'une généralité. Donc le but, c'était de suivre l'actualité, d'essayer d'identifier ce qui était en jeu et d'en faire un dessin qui pouvait généraliser les choses et être relu 5 ou 10 ans plus tard, et en étant toujours compris, compréhensible et moderne. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les dessins d'actualité, en fait, parce que souvent ça colle à une actu bien précise et on ne sait plus, parfois on ne sait même plus ce qui s'est passé. Et là, le but, c'était vraiment de faire quelque chose de plus général, plus universel.
C'est un peu ce que tu as essayé de faire avec Mortel ?
Avec Mortel, ça c'est différent. Là, c'était vraiment de l'humour noir et c'était pour jouer autour de la mort, quoi. Et c'est évidemment un sujet qui nous parle tous. Et le but, c'était justement de désacraliser tout ça et d'en faire un album avec un humour un peu noir, un peu dérisoire. Et voilà, là, je m'étais fait plaisir.
Alors, ça fait plusieurs fois que tu es invité au rendez-vous de la bande dessinée. Est-ce que tu vois une évolution dans, je sais pas, la lecture dans ton public, dans le public ?
Alors, au début, j'avais surtout un lectorat adulte, parce que mes bandes dessinées étaient principalement adultes. Maintenant, je commence à avoir plus de jeunes, d'enfants, d'adolescents aussi, parce que entre-temps, j'ai moi-même fait des BD dans des magazines comme Topo, qui sont lus pas mal par des adolescents. Et aussi, c'est de plus en plus, on voit des gens qui ne s'intéressaient pas à la BD à la base, et qui sont en fait très curieux. Et ce qui est bien avec les rendez-vous de la BD d'Amiens, c'est que justement, ça ne s'adresse pas qu'à un public de connaisseurs. Ça fait venir plein de familles, plein de gens qui s'y connaissent pas trop et qui sont curieux et qui ont envie de découvrir des choses. Et c'est hyper intéressant de parler avec ces personnes-là et de voir un peu le plaisir qu'elles ont à redécouvrir la bande dessinée, parce qu'on a tous lu de la bande dessinée quand on était enfant. Et certaines personnes ont arrêté en se disant bah, « la bande dessinée, c'est pour les enfants ». Et finalement, ils y reviennent et ça, c'est chouette.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci Colline pour ces rendez-vous de la bande dessinée. Voilà, c'est déjà la fin de votre Info Club Sandwich. On se quitte en musique avec Bam Bam de Sister Nancy. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus Amiens. Bonne journée à toutes et à tous.
Tell me say one thing Nancy can't understand. Who one thing Nancy can't understand? What make them a talk about me ambition? Say what make who them a talk about me ambition? Come me say some of them a ask me where me get it from. Say some of them a ask me where me get it from. I told them no no, it's from creation. I told them no no, it's from creation. Bam bam.
What time?